du psaume 4. Quand je crie, réponds-moi, Dieu ma justice, toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'où irez-vous dans l'insulte à ma gloire, l'amour du néant et la course au mensonge? Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Mais vous tremblez, ne péchez pas. Réfléchissez dans le secret, faites silence. Offrez les offrandes justes et faites confiance au Seigneur. Nous avons commencé la cinquième semaine de carême. Nos pas se sont affermis, ou bien peut-être au contraire, sommes-nous fatigués. Je fais pourtant le pari que nous sommes ensemble capables de passer aujourd'hui du lait premier âge à une nourriture un petit peu plus consistante. Et je vais vous emmener dans une longue marche, un vagabondage biblique, jusqu'à rencontrer des personnages inquiétants, comme l'ange exterminateur, notamment. Courage. Et dans un premier temps, je voudrais vous parler de l'épreuve. Et comme exemple, paradigme de l'épreuve, celle d'Abraham. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là, tu l'offriras en sacrifice sur la montagne que je t'indiquerai. L'épreuve d'Abraham, c'est l'épreuve de la foi du Père des croyants. Elle est donc le modèle de l'épreuve de la foi de tout croyant. Passage sans doute obligé pour se défaire des images de Dieu que l'on s'était construites et qui tombent lorsqu'on est éprouvé. Tout d'abord, l'épreuve vient par là où l'on n'attendait pas qu'elle vienne. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Quelque chose en nous se cabre, tout mais pas ça. Tu peux tout me demander mais pas ça, Seigneur. Ce texte, d'une certaine manière, est avant tout un scandale. Dieu ne peut pas demander à Abraham son fils. Pourtant, Abraham ne rechigne pas. Il ne demande pas de compte à Dieu. Il ne lui demande pas pourquoi il semble revenir sur sa promesse. Lentement, mais aussitôt, il se met en marche, prépare ses affaires, et Abraham part avec son fils, deux jeunes serviteurs et un âne. Il prend aussi du bois pour l'Holocauste. Et le troisième jour, précisément le troisième jour, il arrive au lieu dit Moria. Il aperçoit la montagne et dit cette phrase surprenante à ses serviteurs. « Demeurez ici avec l'âne, moi et l'enfant, nous irons jusque là-bas, nous adorerons et nous reviendrons vers vous. » Prenons le texte à la lettre. S'il le dit, c'est qu'Abraham le croit. Nous reviendrons. De même, quand son fils lui demande où est l'agneau pour l'Holocauste, c'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. Alors oui, Abraham, mystérieusement et malgré tout, croit en la bonté de Dieu. Et pourtant, il faut que ce soit Dieu qui arrête sa main. Il a ficelé Isaac sur le bûcher. Il s'apprête à lever le couteau sur lui. Il faut que ce soit le Seigneur qui crie « N'étends pas la main sur l'enfant, ne lui fais pas de mal. » Alors Abraham lève les yeux, il voit le bélier. Scène mystérieuse. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans sa foi? N'est-ce pas la tentation qui l'a assailli? Tentation de croire que Dieu veut reprendre ce qu'il a donné. Tentation de croire qu'il aime le sang des sacrifices. Tentation de projeter sur Dieu la violence qui nous traverse. Le texte, bien sûr, ne le dit pas, mais la question doit nous être adressée et sans fin reprise. Abraham a ouvert les yeux. Il a entendu la voix du messager. Il a résisté à la tentation de se mettre à la place de Dieu en immolant son enfant. Il a résisté au bout du compte, après son combat. Il a résisté à la tentation de croire que Dieu préférait la mort à la vie. Alors oui, en cela, Abraham est le père des croyants. Alors oui, à ce moment, son fils lui est rendu, ou plutôt donné à nouveau, dans une relation nouvelle, sans doute moins empreinte de possession, comme le suggère Marie Balmarie. Alors, la bénédiction est à nouveau posée sur sa vie. Et dans ce passage du chapitre 22 de la Genèse, de multiples naissances adviennent dans son entourage. La vie a gagné. Mais quelle tentation et quelle épreuve! Je voudrais poursuivre avec ce texte avec un autre point d'attention. Le lieu du sacrifice, le mont Moria, n'est pas n'importe quel mont. Si vous prenez vos Bibles, et de préférence des Bibles avec des notes, vous verrez que les notes nous renvoient à d'autres livres de la Bible où il est question de ce mont Moria. La Bible nous renvoie par exemple au second livre des Chroniques, chapitre 3, verset 1, qui parle de Salomon. Et ce second livre des Chroniques, qui n'est pas très facile à lire, pas très attrayant, dit ceci. Salomon commença alors la construction de la maison du Seigneur, entendre le temple. C'était à Jérusalem, sur le mont Moria. Là où son père David avait eu une vision. C'était le lieu préparé par David, l'aire d'Ornan, le Jébuséen. On est amené à une sorte de jeu de piste, et vous voyez que déjà, premier indice, le lieu où sera construit le temple de Jérusalem, c'est le mont Moria, là où Abraham a été amené à reconnaître que Dieu préférait la vie à la mort. Et les notes nous envoient donc à ce troisième texte, cette histoire où David a eu une vision. Il faut aller se promener au premier livre des Chroniques, cette fois au chapitre 21, ou si vous préférez, la même histoire est racontée deux fois, au second livre de Samuel, chapitre 24. Cette vision de David renvoie à une autre épreuve. David a péché en voulant comptabiliser le peuple, entendre mettre la main sur le peuple, la raisonner. Compter le peuple, c'est une manière de faire haï par l'homme biblique. C'est une forme d'idolâtrie. C'est finalement la manière de consommer le fruit de la pénétration du bien et du mal. Donc David a voulu compter le peuple. Alors Dieu frappe Israël. Et David se repent. En guise de repentance, Dieu propose à David de choisir ou bien 3 années de famine, ou bien 3 mois de conflit armé, ou bien 3 jours de peste. David choisit la peste parce que ça durera moins longtemps. Et les textes nous disent, sur les 1 100 000 hommes de David, 70 000 tombèrent. Alors survient ce personnage étrange, pour le moins inquiétant, l'ange exterminateur. Il me semble que c'est important, quand un passage biblique est difficile, non pas de le fuir, mais de l'affronter. Et donc, affrontons ensemble l'ange exterminateur. Nous sommes au second livre de Samuel, chapitre 24, donc, versets 15 à 16. Le Seigneur envoya la peste en Israël. 70 000 hommes du peuple moururent. L'ange étendit sa main vers Jérusalem pour l'exterminer, mais le Seigneur Dieu se repentit de ce mal et il dit à l'ange qui exterminait le peuple, « Assez, retire à présent ta main. » Le Seigneur se repentit de ce mal. Nous connaissons cette expression, la fameuse « Néama » de Dieu. Et nous savons désormais que quand Dieu se repent du mal, c'est qu'il le prend sur lui. Il arrête la main de l'ange exterminateur, de la même manière qu'il a arrêté celle d'Abraham et son couteau. Alors David, voyant l'ange qui frappait le peuple, se repent à son tour et s'exclame « C'est moi qui ai péché, mais eux, qu'ont-ils fait ? Que ta main s'appesantisse donc sur moi et sur ma famille. » Et le livre des Chroniques ajoute « Mais que ton peuple échappe au fléau. À son tour, David prend sur lui le mal. » La conversion de David, c'est de n'accuser plus personne, ni le peuple, ni son Dieu, mais de reconnaître sa propre part de responsabilité dans cette histoire. Après la fin du fléau, comme promis, il achète le champ d'Ornans où est apparu l'ange pour en faire un autel qui semble se trouver au lieu même de Moria. En fait, dans l'histoire, entre le sacrifice d'Abraham et quelque temps plus tard, la construction du temple de Jérusalem. Cet ange exterminateur, dans cette vision de David très compliquée, comme dans l'épreuve d'Abraham, est une sorte de figure double. Et le texte lui-même est ambigu, puisque d'un côté on l'appelle l'ange du Seigneur, et d'autre part on l'appelle l'exterminateur. Il a tué beaucoup d'hommes de David, mais sa puissance est limitée, et la parole de Dieu peut retenir l'épée de l'exterminateur. D'une certaine manière, au mont Moria, si l'on cumule ces trois histoires, Abraham, David et la construction du temple, nous sommes au cœur du mystère pascal. Le lieu du sacrifice d'Isaac, où Dieu a retenu sa main, est aussi le lieu où Dieu a souffert le mal qu'il aurait pu infliger au peuple. C'est aussi le lieu du temple de Jérusalem, tout près de là, où Jésus a été crucifié. Oui, Dieu prend sur lui toute violence, toute colère, tout jugement, toute condamnation. Voilà sa miséricorde. En fait, tout dépend, dans cette histoire d'ange exterminateur, de quel regard nous portons sur Dieu. Lorsque nous sommes avec David en train de pécher, nous confondons Dieu et l'exterminateur. Et nous disons que c'est Dieu qui frappe Israël. Lorsque nous sommes avec David repentant, nous voyons que c'est Dieu qui retient la main de l'exterminateur, comme il a retenu la main d'Abraham. C'est très important. Dans le premier cas, nous nous faisons accusateurs de Dieu. Et peut-être que c'est cela, le péché contre l'esprit, quand nous confondons Dieu et le mal et l'épreuve dont nous sommes frappés. Dans le second cas, nous nous abritons sous la miséricorde de Dieu en reconnaissant que c'est elle qui arrête l'accusation. Comme souvent avec les autres, nous projetons sur Dieu notre propre violence. Quand nous sommes aveuglés, nous supposons qu'elle vient de lui et nous l'accusons. Quand notre regard est plus clair ou peut-être plus humble, nous reconnaissons que sa parole, si elle est tranchante, nous sépare de cette violence pour nous en sauver. Cependant, dans le même temps qu'elle nous dit cela, la Bible prend bien soin de montrer combien la reconnaissance de Dieu ne se fait pas d'emblée et de montrer que le Dieu qui se dévoile est un Dieu patient, qui prend notre tempo, même si nous sommes bien lents. Abraham était prêt à sacrifier son fils, et ce n'est qu'à la fin de cette longue préparation, à la fin de ces 3 jours de marche, que ses yeux se dessillent et qu'il voit le mouton. La foi d'Abraham n'est pas pure, ni sans combat, et c'est pour cette raison même qu'elle est exemplaire. Elle est comme la nôtre. Il nous faut du temps. Et c'est quand il prend conscience de sa faute et de l'innocence du peuple que David a la claire vision de Dieu qui retient la main de l'exterminateur, qui n'est pas l'exterminateur. Mais là aussi, le temps lui est nécessaire. Et le texte, jouant sur l'ambiguïté, nous fait vivre à nous-mêmes qui lisons ces passages, cette même conversion du regard. Et petit à petit, nous prenons conscience que non, Dieu n'est pas l'exterminateur. Peut-être d'ailleurs faut-il toute une vie et traverser plusieurs fois l'épaisseur du livre biblique, depuis la Genèse, en passant par l'Exode, les prophètes, Job et les autres, pour comprendre ce que Dieu ne cesse de murmurer depuis le début et que nous dit le livre de la Sagesse au chapitre 1, verset 13. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne prend pas plaisir à la perte des vivants. Et souvenez-vous de Jésus qui pleure à la mort de Lazare, parce qu'il n'aime pas non plus la mort. Dieu n'a pas fait la mort. Il n'y a donc qu'un sacrifice, désormais. De même qu'il n'y a plus qu'un grand prêtre et qu'un autel, et cet autel, c'est la croix. Il n'y a qu'une parole, un seul verbe, et cette parole unique est le Fils unique de Dieu. Ce que nous rappelle l'Épître aux Hébreux, en reprenant le psaume 39. Tu ne voulais ni sacrifice, ni oblation, mais tu m'as façonné un corps. Alors j'ai dit, voici, je viens, car c'est de moi qu'il est question dans le rouleau du livre, pour faire au Dieu ta volonté. Tu ne voulais ni sacrifice, ni oblation. Je voudrais dans un second temps parler de sacrifice, pour continuer dans les images difficiles de la Bible. Il me semble, oui, qu'il n'y a plus qu'un sacrifice, et que le Fils unique de Dieu, son bien-aimé, vient et prend la place des exterminés. Il se met finalement à la place du Fils unique d'Abraham, mais personne ne retiendra la main qui tient le couteau. Il se met à la place de ceux qui sont victimes de la violence des autres, mais aussi de leur propre violence, de la violence qui les habite. Nous le disions mardi dernier, il se met à la place du péché. Le Christ ne peut arrêter la main qui tient le couteau qu'en étant lui-même blessé à mort. Il ne peut donner la vie définitivement qu'en passant par la mort. Et si le disciple n'est pas au-dessus du maître, il nous faut approcher ce mystère. Ce n'est pas par en haut qu'on va vers le ciel, mais par en bas. Pour être sûr de n'en perdre aucun, le Fils unique accepte de mourir comme un malfrat, un peu à côté du mont Moria, hors du temple de Jérusalem, crucifié entre deux croix, habité par des bandits, pour que les perdus, les méchants, les tordus, les pauvres gens, les religieuses, nous tous, tous, soyons associés à ce mystère. Alors, je vous en prie, c'est bien dans la continuité de l'Évangile que nous venons d'entendre, je vous en supplie, contemplons le Christ crucifié dans les deux semaines qui nous restent. Contemplons le Christ crucifié. Il n'est pas du côté de l'ange exterminateur. Il est de côté de l'accusé, du condamné, de la victime, des coupables. Il est de notre côté. Il n'est plus possible, devant la croix du Christ, d'accuser Dieu d'être l'auteur du mal, parce qu'il souffre l'énigme avec nous. Il n'y répond pas. Mais il crie vers son Père, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voilà pourquoi l'accusateur a perdu, parce qu'il n'y a plus rien à accuser. L'accusateur de nos frères est rejeté, lui qui nous accusait jour et nuit devant notre Dieu, dit l'Apocalypse au chapitre 12, verset 10. Le sacrifice unique a eu lieu une fois pour toutes, et un seul sacrifice demeure désormais possible, et c'est l'œuvre de miséricorde que je vous invite à vivre ces jours-ci et que je voudrais déployer pour conclure. Le seul sacrifice qu'il nous reste à vivre, c'est un sacrifice d'action de grâce, une Eucharistie. Je voudrais déployer cela. Lorsqu'au début du livre de l'Exode, Dieu se fait connaître à Moïse, il faut se souvenir que Moïse, à cette époque, est un assassin en fuite, incapable d'aligner trois mots sans mourir d'angoisse. Et Dieu va lui dire deux choses essentielles parmi tant d'autres. Tout d'abord, il se fait connaître par ces mots « j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri devant ses oppresseurs. Je connais ses angoisses. je suis descendu pour le délivrer. Il ne cesse pas de nous dire ça. J'ai vu la misère de mon peuple. J'ai entendu son cri. Je connais ses angoisses. Je suis venu pour le délivrer. Et puis une fois qu'il a expliqué qu'il souhaitait libérer le peuple de l'esclavage, devant Moïse qui doute, Dieu dit « Je serai avec toi. Et voici le signe qui te montrera que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » C'est pour moi un passage essentiel pour expliquer le sens de la liturgie. La liturgie qui est indissociablement le service de Dieu et du frère, n'a de sens que comme remerciement, comme action de grâce, en remerciement pour la libération que nous avons reçue. Lorsque Matthieu met en scène la naissance de Jésus, il nous fait assister à l'arrivée des mages venus de pays lointains, païens. Ces mages portent des offrandes, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. La myrrhe de Noël annonce déjà la mort du Christ et son embaumement. L'or proclame la royauté de ce nouveau-né, ce qui conduira Hérode à assassiner tous les enfants de cet âge-là, afin d'être certain d'éliminer un rival. C'est donc un or marqué par le sang. Quant à l'encens, il figure le fumet des sacrifices, la prière qui s'offre, l'offrande des martyrs, le cri de tous les hommes qui montent vers Dieu. Cette prière elle-même est marquée par le sang. Mais fut-elle marquée par le sang, elle n'est pas une condition du salut. Elle est rendue possible, cette prière, parce que le salut déjà est offert. Pour le dire autrement, si nous sommes invités à offrir nos vies à notre tour, et encore une fois, c'est ce que nous faisons tous chaque jour, le plus souvent sans y penser. Si nous sommes invités à offrir nos vies, ce n'est que pour remercier notre Dieu de ce qu'il nous a sauvés. L'éthique chrétienne trouve son unique fondement là. Agir bien n'est pas une condition préalable au salut. Agir bien, ce n'est même pas une obligation. C'est notre manière de remercier Dieu de ses dons, de sa libération. Il n'y a d'éthique chrétienne qu'eucharistique. Je vous parlais des rois mages et je vais faire un saut grâce à un partage biblique que nous a relayé une sœur de ma communauté qui est aumônier à Fleury-Mérogis. Et c'est un détenu qui a fait la comparaison entre les deux textes dont je vais vous parler. C'était à l'Épiphanie, il venait de commenter le texte des rois mages qui apportaient l'or, l'encens et la myrrhe. Et voilà que cet homme a dit, mais finalement, c'est pareil que Marie de Béthanie lorsqu'elle s'approche de Jésus dans l'évangile de Jean. Elle aussi, elle vient avec trois offrandes, comme les mages. Elle offre du parfum, elle offre ses larmes, elle offre la caresse de ses cheveux. Jésus rapproche le parfum de la myrrhe, puisqu'il parle d'embaumement. Cette femme reconnaît son roi, et on retrouve l'or. Quant à la prière, tout le mouvement de son corps abandonné, ses cheveux qui caressent les pieds de Jésus, tout ce mouvement est offrande, reconnaissance, sacrifice d'action de grâce. Elle nous montre, je crois, ce que c'est que le sacrifice d'action de grâce. Le soin du corps de l'autre, ce qui inclut la nourriture, le parfum, la beauté, le soin d'une maison, est un geste liturgique, un sacrifice d'action de grâce. Alors, nous entrons, vous le sentez à la tonalité de ce propos, dans des temps difficiles, dans des temps graves, celui de la cinquième semaine de carême et celui de la semaine sainte. Le sacrifice d'action de grâce n'est pas seulement la joyeuse célébration d'une histoire qui finit bien. Il coûte, il nous coûte, car il nous demande une séparation nette, tranchante, sans concession, d'avec ce qui tue. Et c'est pourquoi je voudrais clore cette méditation par une manière un peu rude, une troisième manière un peu rude, de vivre ce sacrifice d'action de grâce, une sorte de vade-mecum pourtant de violence, parce que sans doute parmi nous, la vie d'un certain nombre est malmenée. Et je voudrais terminer par les psaumes imprécatoires. Ces psaumes que nous pouvons lire quand nous avons envie de casser la figure à quelqu'un. Je vous cite le psaume 57, que vous n'avez sans doute pas l'habitude de lire dans les livres d'office, puisqu'on l'a gommé, alors qu'il est dans la Bible. « Dieu brise leurs dents et leurs mâchoires. Seigneur, casse les crocs de ces lions, qu'ils s'en aillent comme les eaux qui se perdent, que Dieu les transperce et qu'ils périssent, comme la limace qui glisse en fondant, ou l'avorton qui ne voit pas le soleil. » Parole de Dieu. Ce psaume que nous chantons rarement dans la liturgie a été mis entre crochets dans les livres, dans les psautiers, et carrément effacé des livres d'office parce qu'on avait peur qu'il soit trop choquant et peut-être pas assez chrétien. Pourtant, paradoxalement, je pense que ces psaumes nous parlent de la miséricorde. Mais d'une miséricorde comme j'aime, une miséricorde virile, debout, qui n'a pas grand-chose à voir avec la guimauve. Alors pourquoi chanter de tels psaumes? La première des raisons, c'est qu'il y a bien des gens qui sont dans de telles détresses qu'ils sont en droit de crier cela vers Dieu. Ce serait hypocrite de l'ignorer. S'il n'y a ne serait-ce qu'un seul homme qui crie vers Dieu, transperce mes ennemis, il est urgent de chanter ce psaume afin qu'il ne soit pas seul avec son cri. Et puis, il y a tous ceux qui sont dans la même situation et qui n'ont plus de voix pour crier. Alors peut-être nous devons être leur voix et demander à Dieu que leurs ennemis soient transpercés. Je crois que cela s'appelle la communion des saints. La seconde raison de chanter ces psaumes, c'est qu'ils sont dans la Bible et que le Christ les a priés. C'est sans doute d'ailleurs en soi une raison suffisante. Enfin, la troisième raison pour crier vers Dieu « Écrase mes ennemis contre le roc », c'est que pendant qu'on le chante, on ne le fait pas. Et donc c'est un psaume de non-violence. Si nous avons des ennemis, si nous sentons monter en nous la violence, mieux vaut sans doute remettre cette violence à Dieu qui saura quoi en faire. Sans doute vaut-il mieux que ce soit lui qui nous débarrasse de notre ennemi. Il le fera de façon plus délicate, parce que notre ennemi sans doute est un fils qu'il aime. Crier vers Dieu, des cris de violence, c'est donc paradoxalement, je viens de vous le dire, oui, un acte non violent. Décider de nous tourner vers Dieu, y compris au cœur de la violence, c'est décider de croire que nous savons que Dieu n'est pas l'exterminateur. Et c'est lui demander son aide pour qu'il transforme notre propre violence en prière. Et je crois que c'est véritablement aussi un sacrifice d'action de grâce. Alors, dans tous les personnages évoqués ce midi, prenez la compagnie qui vous convient le mieux. Abraham, les mages, les psaumes imprécatoires, David, Marie de Béthanie. La cinquième œuvre de miséricorde, c'est d'apprendre peut-être jour après jour, lentement, à ne pas projeter sur Dieu notre propre violence, mais au contraire, le remercier par l'offrande de nos vies. En tes mains, ô Père, je remets mon esprit. In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum. In manus tuas, Pater,